allez bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la grande question de comment gérer ces crises de boulimie ou d'hyperphagie. C'est une question qui revient super souvent et c'est complètement normal parce que quand tu fais ces crises, ça prend toute la place dans ta tête, dans ton quotidien. Donc t'imagines bien qu'il n'y a pas de réponse toute faite, ça se saurait. Mais ici, je voudrais surtout parler des différentes causes, des quatre causes différentes qui peuvent déclencher des crises de boulimie et sur lesquelles tu peux travailler. Aujourd'hui, dans la majorité des articles que tu peux trouver sur le sujet, on t'explique surtout qu'avec tes crises, tu manges tes émotions. Et évidemment, je vais en parler parce que c'est effectivement une grosse partie. Mais je voudrais surtout attirer ton attention sur trois autres facteurs qui sont moins connus mais qui ont une grande influence sur ces crises de boulimie. Le premier facteur, c'est la gestion de tes émotions. On a plein d'émotions tous les jours et le but, c'est pas du tout de les ignorer parce qu'elles sont complètement normales, mais plutôt de les détecter et de comprendre quel est le vrai besoin qui se cache derrière cette émotion et qui se traduit par cette envie irrésistible de manger. Par exemple, si tu fais une crise le soir et que le lendemain t'as un oral, c'est peut-être de l'angoisse que t'essayes d'oublier parce qu'elle est désagréable. Ou si tu rentres de ta journée de boulot le soir et que tu te jettes sur la nourriture, c'est peut-être juste le signe que c'est le stress de ta journée qui retombe tout simplement. Et une fois que tu comprends quelle est l'émotion qui déclenche cette envie de manger alors que t'as pas faim, le but c'est d'essayer de trouver une activité autre que manger qui va réussir à apaiser cette émotion. Parfois, ça sera juste un bon bain pour te relaxer, mais parfois, ça va être des trucs un petit peu plus importants, comme prendre rendez-vous avec ton chef pour essayer d'organiser ton travail autrement et donc réduire ton stress. Parfois, ton émotion, elle va disparaître grâce à cette activité, mais parfois, la situation fait que c'est un peu plus compliqué et ça va pas se résorber comme ça, et c'est ok. En fait, le but ici, c'est vraiment surtout de comprendre quelle est cette émotion derrière, parce que souvent, t'en as pas du tout conscience. Et si tu peux ensuite trouver une activité qui, si elle t'enlève pas cette émotion, au moins te fait du bien, contrairement à manger où ça te rajoute du stress et un mal-être. La gestion des émotions, c'est un vaste sujet et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, je te mettrai le lien en barre d'infos. Le deuxième facteur qui peut déclencher des crises, ce sont les restrictions. Quand tu t'interdis certains aliments, tu vas être obsédé par ces aliments et du coup tu vas finir par craquer, c'est normal, c'est humain. Et je voudrais préciser que c'est pas seulement des restrictions physiques, mais aussi et souvent des restrictions mentales. Ça veut dire qu'il te suffit de penser à faire un régime ou à te restreindre pour enclencher cette obsession pour la nourriture et donc de faire une crise alors que t'as même pas vraiment commencé ton régime. Je le dis parce que moi, c'est vraiment le truc qui m'a bloqué pendant des années parce que en fait, j'avais l'impression de jamais vraiment être au régime parce que je me privais jamais. Mais en fait, j'ai réalisé que c'était parce que je passais ma vie à m'interdire, à me dire « Non mais demain c'est bon, je mange sain tous les jours. » Et au final, ça provoque exactement le même mécanisme et c'est vraiment un gros facteur qui déclenche tes crises. Parce que du coup, que tu te sois privé physiquement ou mentalement, quand tu craques, ben tu t'en veux parce que c'est pas cohérent avec ce que tu t'étais dit. Et du coup, tu te remets à te restreindre encore plus, à t'inventer des nouvelles règles. Et c'est comme ça que tu rentres dans un cercle vicieux où t'alternes entre privation, craquage, privation, craquage. Ici, le but, ça va vraiment être de détecter tous ces moments où tu te restreins, que ce soit physiquement ou juste mentalement. Tous ces moments où tu choisis des aliments parce que c'est plus sain, parce que c'est comme ça que tu vas réussir à garder la ligne et qui n'ont rien à voir avec ce que t'as vraiment envie. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur les impacts que les privations avaient sur ton comportement alimentaire. Je te mets le lien en barre d'infos et je t'encourage vraiment à aller la voir parce que ça permet vraiment de réaliser que, en fait, après une période de restriction, c'est complètement normal d'avoir des crises de boulimie ou d'hyperphagie. Du coup, une fois que tu auras compris ça, j'espère que ça t'aura convaincu d'arrêter petit à petit de te restreindre. Le troisième facteur, c'est la biologie. Je pense que je ferai une vidéo complète sur le sujet parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais là, je voudrais juste te dire une chose. Ton corps a besoin d'énergie toute la journée. Pour être en forme, il a besoin d'être nourri régulièrement, c'est-à-dire toutes les 2 à 6 heures selon chaque métabolisme. Ton corps a besoin d'énergie et plus tu attends pour le nourrir, plus tu sentiras cette urgence de manger. Pour te donner un exemple un peu concret, je vivais à un moment donné chez une famille, je louais une chambre dans une maison où vivait une famille du coup. Et du coup la cuisine, ben, elle était pour tout le monde et même s'ils étaient adorables, ben, j'étais pas super à l'aise, c'était pas comme chez moi. J'étais pas à l'aise de descendre à n'importe quelle heure alors qu'ils étaient tous là en repas de famille. J'étais pas super à l'aise et du coup je cuisinais rarement. Ou alors pour faire des petits trucs, réchauffer un plat, Voilà, je me voyais pas rester longtemps dans leur cuisine me préparer des trucs. Du coup, j'ai fini par acheter des trucs qui se mangeaient facilement et puis finalement, j'ai acheté pas mal de sucré. Et je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai fait le plus de crises. Alors au début, je me suis dit que c'était parce que je me sentais seule, j'étais loin de mes proches. Mais en fait, en analysant la situation, pendant cette période-là, je travaillais toute la journée. Donc quand je rentrais le soir, j'avais super faim, j'avais envie de manger rapidement. Je savais que je pouvais pas cuisiner, ça me faisait vraiment pas envie de cuisiner. Du coup, quand je faisais mes courses, j'achetais des trucs faciles à manger et je me jetais dessus. Donc par exemple, des bols de céréales typiquement, c'était facile à utiliser. J'avais juste à laver mon bol, à avoir du lait dans mon frigo et voilà. Du coup au final, même si je pense qu'effectivement il y avait une partie émotionnelle, un sentiment de solitude, je crois que c'était surtout une réaction que mon corps m'envoyait quand je rentrais chez moi, que j'avais besoin d'énergie et que moi j'interprétais comme je vais faire une crise. Et du coup, je pense que si j'avais davantage cuisiné, si je sais pas, je m'étais mieux organisée en préparant mes plats le week-end ou des trucs comme ça, honnêtement, je pense que j'aurais fait moins de crises parce que en fait, c'est juste que mon corps il avait besoin d'énergie. Et moi, comme j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des périodes où je faisais des crises, là, je me suis dit que c'était ça. Et du coup, ben, je faisais des crises avec des aliments de crise et du coup je me suis même pas posé la question de bah en fait c'est juste que t'as peut-être faim et qu'il faut que tu manges quoi. Je me disais que c'était lié à mes émotions et c'est tout. Alors voilà, je pense que ce facteur il est important parce qu'on n'en parle pas trop et on a tellement l'habitude que voilà, notre corps nous piège avec la faim et de dire que les crises c'est lié aux émotions que ben voilà, je vous pousse un petit peu à vous poser la question parce que ça peut aussi être ça. Le quatrième facteur c'est le self-care, donc prendre soin de soi. Et ça je pense qu'on le sous-estime beaucoup parce que prendre soin de soi c'est pas juste se faire des masques, mais c'est surtout prendre soin de ses besoins essentiels genre le sommeil, la tendresse, l'attention ou même passer du temps avec soi-même. Là je vous invite vraiment à vous poser des questions. Parce que parfois t'as l'impression de passer une heure à rien faire et que du coup bah, t'as pris soin de toi, c'est bon. Mais en fait t'as passé une heure sur Insta, sur YouTube à faire rien. Mais en même temps t'étais complètement ailleurs et pas du tout avec toi-même. Du coup est-ce que t'as vraiment pris soin de toi? Pas vraiment. Parce que même si c'est un moment où t'as pensé à rien, ben, finalement tu te sens pas beaucoup plus ressourcée après. Bon, évidemment je dis pas qu'Instagram c'est mal. D'ailleurs, je te mets mon compte ici, hein. C'est pas du tout approprié. Je dis juste que c'est important de se poser la question, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me ressource? Par exemple, je me souviens que quand j'étais plus petite, je détestais les balades en forêt et mes parents adoraient ça, évidemment. Et je préférais mille fois plus rester chez moi, regarder la télé ou même pas, mais aller dehors, ça me saoulait. Mais en fait, quand mes parents me forçaient, ben... J'étais toujours de meilleure humeur quand je rentrais chez moi, j'étais contente d'avoir pris l'air, je sentais que ça m'avait fait du bien. Et je me rends compte que même aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à sortir sans mon téléphone, sans internet. J'ai du mal à juste aller marcher, même écouter un podcast ou juste rien faire, juste marcher pendant une demi-heure. J'ai énormément de mal et je vais repousser, je vais dire ouais plus tard. Et au final, à chaque fois que je le fais, je me sens super bien, j'ai des nouvelles idées, je me sens plus en forme pour faire des nouvelles choses. Et clairement, je me sens mieux qu'après avoir regardé 2 heures de mes stories Insta, quoi. Donc voilà, je t'ai présenté les 4 facteurs qui pouvaient déclencher tes crises. Mais évidemment, c'est rarement un seul facteur qui rentre en compte. Souvent, c'est un mélange de plusieurs facteurs. Alors j'espère que ça te poussera à te poser des questions pour chacun des facteurs et ne pas juste réfléchir aux émotions, par exemple. Ah oui, aussi, il faut savoir que chaque facteur influence les autres. Par exemple, imaginons que tu te restreins régulièrement, que ce soit physiquement ou mentalement, et tu prends pas assez soin de toi, tu dors pas assez. Quand tu vas commencer à prendre soin de toi, à te coucher plus tôt, à avoir un meilleur sommeil, ben tu vas peut-être naturellement moins te restreindre parce que t'auras envie de prendre soin de toi, t'auras envie d'écouter davantage tes envies naturellement en fait. Je vais te donner un autre exemple concret. C'est Evelyne Tribol, donc c'est la diététicienne qui est à l'origine de l'alimentation intuitive, qui racontait l'histoire d'une de ses patientes, donc Clara. Donc Clara, c'était une fille super sportive qui n'avait jamais fait de régime, donc qui se restreignait pas et qui se sentait super bien avec son corps, mais qui faisait des crises de boulimie régulièrement. Du coup, Clara a contacté Evelyne et pour elle, c'était son boulot qui la stressait énormément. Donc le soir, quand elle rentrait chez elle, elle faisait des crises super souvent pour s'apaiser. Sauf qu'en fait, même si elle voulait pas perdre de poids, qu'elle se sentait bien avec son corps, on lui a tellement répété que pour une sportive, il fallait mieux éviter les glucides, qu'il fallait faire attention, que naturellement, elle a diminué son apport de glucides jusqu'à en consommer vraiment pas beaucoup. Et du coup, Evelyne a commencé à lui expliquer que biologiquement, c'est normal que son corps ait des envies de manger, des envies de glucides, des envies de sucre, parce que tout simplement, son corps avait besoin de glucides. Du coup, pour voir si ça a changé quelque chose, Clara a accepté de réintroduire petit à petit des glucides dans son alimentation, même si dans sa tête, elle savait que c'était pas dû à ça, mais dû à son stress en fait. Sauf que finalement, en réintégrant petit à petit des glucides dans son alimentation, son corps, son cerveau ont fonctionné de mieux en mieux. Ils avaient plus d'énergie, ils étaient plus forts, et finalement, elle a été capable de gérer son stress toute seule et elle a plus besoin d'utiliser la nourriture, donc ses crises ont complètement arrêté. Donc voilà, avec cet exemple, je veux vraiment montrer que tout est lié, donc chaque changement que tu vas faire va forcément influer sur ton comportement ou sur les autres facteurs que tu pourrais avoir. Et du coup, même si tes crises aujourd'hui te paraissent insurmontables, elles le seront forcément moins au fur et à mesure que tu travailleras sur un des facteurs que tu détectes chez toi. Petit à petit, les choses se mettront en place. Il faut vraiment faire confiance dans ce process-là. Si tu te fais confiance, si tu apprends à t'écouter, si tu apprends à mieux te connaître et à prendre soin de toi, forcément ça te donnera des résultats positifs. Donc voilà, ces quatre clés, c'est vraiment des pistes de réflexion pour que tu te poses des questions dans ta situation. Demande-toi dans chaque catégorie les choses que tu pourrais essayer un peu autrement et qui tu penses t'aideraient à aller mieux. Et parfois, ça n'a pas forcément un lien direct avec tes crises de boulimie. C'est pas toujours évident. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment aller vers plus de self-care, prendre soin de soi et ça sera forcément positif. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque-là et à la prochaine vidéo. Salut !